Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo'. Atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, baffutello e sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per bingrindina che ce l'ho? Marcello, son fatuo con un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può che...
Bonsoir, bienvenue comme tous les premières, troisième lundi du mois sur Radio Galère. Vous êtes à l'écoute de Simone avec mon émission Nino domani à Palermo. N'arrêtez pas les autres podcasts en tapant sur le site de radiogalère.org le nom de l'émission en cherchant l'émission Nino domani à Palermo. Aujourd'hui, on revient sur Alice Rohrwacher. Dans l'émission précédente, on a vu le film Corpo Céleste. Aujourd'hui, on va analyser un autre film qui c'est Les Merveilles. Mais avant de faire ça, on va faire un petit excursus sur le cinéma italien. Comme ça, on va voir comment se positionne Alice Rohrwacher par rapport à la tradition cinématographique italienne. Alors, il faut dire que le cinéma italien, essentiellement, naît depuis la Deuxième Guerre mondiale avec le courant fondamental du néoréalisme. En fait, c'est l'Italie de l'après-guerre, donc l'Italie qui se rebelle, qui est un'Italie qui est à lutter, l'Italie qui sort des luttes partisans, est un'Italie qui a renié le fascisme, et il y a le fondateur de la Constitution qui renie le fascisme, qui renie par l'appoint par la Constitution italienne, et il y a essentiellement des partis, la démocratie chrétienne et les partis communistes et socialistes aussi, mais surtout communistes. Les partis communistes ont un pouvoir très fort en Italie, et tous les grands réalisateurs de l'époque, les réalisateurs néo-réalistes, s'aspirent aux idéologies marxistes du Parti communiste. Donc, dans ça, dans le néo-réalisme, il y a une sorte de volonté d'amélioration de la société, un espoir dans l'avenir, un espoir dans le futur. Le futur, on le voit rouge de couleur, comme on disait à l'époque, ça veut dire rouge comme le drapeau du Parti communiste. Et en même temps, il faut dire, il y a cet espoir dans le futur, mais il y a aussi la nécessité de documenter la réalité. Et c'est souvent une réalité très dure. C'est souvent une réalité très pauvre, les ruines de la guerre, les ruines et physiques, matérielles, et comment on va dire, la dévastation même psychologique qui a subi l'Italie et tous les pays qui étaient en guerre à l'époque. Et donc, il y a cette volonté de reconstruction. Mais d'un côté, il faut bien faire une dénonce de la réalité, surtout des classes les plus pauvres, de ce qu'on appelle les prolétariats, surtout les classes qui n'ont pas les moyens. Donc dans ça, le néoréalisme se rapproche beaucoup au vérisme. Le vérisme, c'est un peu comme le réalisme français, on est dans le 19e siècle, on est dans l'Italie risorgimentale, donc aux alentours des années 1800 a San Kens, e gli ha un gran écrivain italien sicilien Verga, che era l'écrivain le plus emblématique du verisme. La différence, le verisme aussi, il parle des pauvres, il parle des, surtout liés au monde du sud, donc l'agriculture, les gens qui sont liés, les paysans, les gens qui travaillent dans les caves de soufre. En Sicile, il y avait beaucoup de caves de soufre, donc les mineurs, les paysans, les gens qui sont vraiment dans la détresse plus totale, qui n'ont pas de quoi manger. Et le verisme décrit ces conditions-là. Mais le verisme ha une sorte de déterminisme. Verga dirà, dalla prefassa ai Malavoglia, dirà chi le pauvre, il appelle pas prolétaire, il dit pauvre, ils sont comme une huître. Du moment que tu détaches l'huître de son rocher, totale, elle va mourir. Donc il y a cette volonté de liberté, cette volonté de sortir de la pauvreté dalla part de la classe pauvre. Mais il n'y a pas une réelle adaptation à la société, chose qui diffère par exemple du réalisme français, où c'est un modèle pour évoluer la description de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Le but c'est d'évoluer les conditions sociales. Donc il y a ce déterminisme qui... e se pessimismo che on retrouve dal verisme e che differe du neorealisme, même si come le verisme, le neorealisme ha la necessità di documenter, ha la necessità di essere cru, di nous donner una realità de realità très forte, de realità très compliquée, de realità fait de provoté, fait de situation tragique, on va dire. Mais c'est une volonté documentaire et augmentant l'espoir dans l'avenir, chose qu'il n'y a pas dans le verisme avec le déterminisme. On pense par exemple à des grands réalisateurs comme Visconti, qui se sont, on a cité Verga, Visconti il a fait une œuvre qui s'appelle La Terre Tremble, La Terre Trema, qui s'inspire pour la pointe des Malavoglia, des Malavoglia de Sèvres, de Verga, du verisme italien. Donc, après le néoréalisme, sont les années 60, les années du boom économique, les années della dolce vita, les années de la Vespa, de la Fiat 500. Donc on est dalla génération qu'on appelle des boomers, les ouvrières commencent à se concéder des vacances, ils vont tous à la mer, il y a aussi la possibilité économique de pouvoir faire ses vacances, l'Italie commence à rêver, elle veut sortir de la lourdeur de la guerre, elle veut sortir de la lourdeur décrite dans les œuvres néoréalistes. On assiste à une volonté de légèreté, à une volonté, comment dire, de se libérer d'un poids, d'un fardeau qu'on a hérité de la guerre. Et cette volonté-là se traduit dans la commedia italienne. La commedia italienne, c'est une comédie, bien sûr, c'est des comédies qui nous font rire, mais en même temps, c'est un rire amer, parce que c'est un rire qui nous fait réfléchir. Ce n'est pas une comédie un peu stupide, rire pour rire, mais c'est toujours une comédie où il y a une réflexion à la base, une réflexion amère, toujours sur une société en train d'évoluer, en train d'avoir envie de légèreté, mais il y a cette situation-là qui nous fait réfléchir. Par exemple, on pense à un film emblématique de la commedia italienne des années 60, en français s'appelle Le Fanfarone, en italien s'appelle La Doublure, qui est avec Vittorio Gassman e Trintignant. Et on voit cette volonté de légèreté, la belle voiture, la musique, les tubes des années 60, Vittorio Gassman qui c'est vraiment un fanfaron, qui court dans cette voiture, qui s'espose, qui fait le beau. Et après, à la fin du film, il y a un amant tragique, il y a la mort d'Eugène Trintignant, qui est si discret, un jeune étudiant, qui est vraiment... Donc, oui, la comédie, oui, ce monde des rêves, ce monde della légèreté, mais toujours avec, comment dire, un petit goût amer. un petit goût amer. Donc, on voit que les Corans sont pas figés, hein. Il faut pas dire années 50, néo-réalisme, années 60, comme dit l'italienne. Les Corans se mêlent entre eux et ne sont pas figés dans des périodes particulières. Par exemple, on assiste au retour du néo-réalisme, ou plutôt à un néo-réalisme tardif, avec certains films de Pasolini. De la même manière, on voit une reprise, on parle des années 70 là, on voit une reprise de la commedia italienne qui était typique des années 60, dans certains films, par exemple Lina Wertmüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, che è déjà le titre, se. C'est un film en lui-même, c'est une œuvre en lui-même. Et le titre en français, si je ne me trompe pas, c'est je ne me souviens pas en ce moment, dans les flottes bleues de l'été, dans un destin solide, dans les flottes bleues de l'été, un truc comme ça. Ma pour revenir à la commedia italiana, Lilian Wertmüller elle-même dira che se ne pa ces œuvres là, ces films, les films à elle, sont pas des vraies commedie italiennes comme l'ha entendu jusqu'à maintenant, sont plutôt des œuvres grotesques. Donc elle passe de la commedia italienne avec cette évolution au grotesque. Donc pour grotesque, on entend la, comment dire, souligner certains aspects, par exemple le machisme du protagoniste, la soumission de la protagoniste dans Travolti da un insolito destino, on parle de Giancarlo Giannini e Marangia Velato. Donc les années 70 sont aussi les années qui portent à le luci della ribalta, pour utiliser le nom d'un film de Chaplin, L'effet de la rampe, qui en italien ça veut dire donne la notoriété, porte alle luci della ribalta, ça veut dire donner la notoriété, donne la notoriété à grands acteurs qui sont restés dans le panthéon des acteurs italiens peu connus dans tout le monde. On parle de Giancarlo Giannini, come je vous ai dit, de Mariangela Melato, de Monica Vitti, de d'autres icons de la beauté italienne, mais aussi on peut parler d'Alain Delon, qui toujours avec Visconti en 63 a fait Le Guépard, Le Gattopardo. Et Alain Delon est en français, mais qui lui aussi il est rentré dans le panthéon des grands stars du cinéma italien avec son rôle fondamental dans Le Gattopardo, qui est un film qui a marqué l'histoire italienne, comme le livre lui-même. Donc les années 70 sont aussi par contre les années de la guerre des plombs, sont les années de la lutte armée, mais sont aussi les années et où il a beaucoup de sont aussi les années de la guerre des pommes, de la lutte armée, comme je vous disais, mais sont les années où il y a ce qu'on appelle il secondo ventennio rosso, ça veut dire le deuxième vingtaine rouge. Il faut dire qu'en France, mai 68 a duré quelques mois. En Italie, il a duré la période des révoltes, la période des protestes, il a duré une décennie, sinon 20 ans. Tous les années, un parti des années 60, tous les années 70, un parti des années 80. Et c'est les années de la lutte armée, c'est les années des Brigades Rouges, c'est les années de l'anarchie, du Parti communiste italien qui est le plus fort d'Europe, le plus nombreux d'Europe après le parti de l'Union soviétique. Et c'est les années aussi où les réalisateurs deviennent très engagés. Par exemple, on pense à Elio Pietri avec son film La classe ouvrière va au paradis. Et l'engagement politique pour des réalisateurs comme Elio Pietri, c'est quelque chose d'inéluctable. Après, il faut dédier vraiment une parenthèse un réalisateur à part entière qui lui constitue quelque chose de vraiment, comment dire, un côté du cinéma italien totalement particulier qu'on ne peut pas classer dans des mouvements particuliers. Et c'est le grand Federico Fellini qui a mosso sacré, Fellini a mosso sacré du cinéma italien. Plus que politiquement engagé, Fellini est plutôt engagé dans un monde surréel qui nous rapproche un peu du réalisme magique. Un réalisme constitué par des esprits et par des fantômes, comme par exemple dans Giulietta degli Spiriti, Giulietta des Esprits, avec Giulietta Masino qui a preso un'épouse. On va écouter il Charleston di Giulietta, c'est un bref morceau de Nino Rota, qui est un grand compositeur qui a travaillé beaucoup avec Fellini. On l'écoute. Monde pré-pré d'esprit qui est le monde de Giulietta Masino avec cette musique allègre, avec cette perception de la réalité, avec ses visions, ses fantasmes, tout dans une atmosphère magique, allègre. C'est ça le monde Fellini, ma le monde Fellini, c'est bien sûr aussi le monde della Dolce Vita, film. Peut-être le plus connu film italien au-delà de l'Italie, surtout en France, La Dolce Vita, c'est une réalité de star, de VIP, qui nous fait fantasmer sur la Rome de Via Veneto. Via Veneto, c'est la rue où il y a les riches, prend les cafés, prend les bars de riches, la bar de star, le bar de VIP, degli anni 60. C'est un film qui a porté vraiment dans le monde entier l'image della classe italienne, personifiée avec son protagoniste Marcello Mastroianni, qui il est connu pour son élégance, sa beauté, qui s'est un peu différencié par rapport au fanfarone de Vittorio Gassman, au fanfaron Vittorio Gassman, che è un peu l'autre stéréotype dell'italien. Ma il faut dire malheureusement qu'un peu dans toutes les époques, on assiste à, comment dire, dans le cinéma italien, il y a ce choix de choisir des acteurs qui, naturellement, on se base sur le talent, mais les réalisateurs sont aussi orientés sur des critères de beauté, surtout pour ce qui concerne le rôle féminin. C'est pourquoi il y a des actrices qui sont devenues des icônes, ce qu'on appelle en anglais sex symbol du cinéma italien, surtout dans les années 60, on a Sofia Loren, Stefania Sandrelli, Claudia Cardinale, qui sont. Qui rappresenta la femme brune italienne, pleine de caractère, forte. De l'autre côté, heureusement, les rôles masculins ne sont pas toujours liés à cette beauté, à cette charme. On a vu la beauté de Mastroianni ou de Giancarlo Giannini, mais il y a aussi d'autres grands acteurs comme Albertone Nazionale, Alberto Sordi ou Nino Manfredi, qui chi son lié sur va de rôle de personnage qui ne sont pas les bons ténébrés, mais c'est plutôt l'italien moyen, c'est l'italien qui vient d'un domaine populaire, d'une couche sociale populaire, un peu stigmatisé, comme la caricature du personnage plutôt que ils sont. Plutôt che dei personaggi a tutto tondo, va a dire, tutto tondo in italiano si va a dire a parentiere. Pure venire a Fellini, certaine de ses films non versent dalla manconie du cirque, come La strada, La nostalgie d'un passé lointain, come Ginger e Fred, il y a les déserteurs qui sont désormais vieux, qu'il danse un ballet, qu'il dansait dans leur jeunesse, quand il faisait le spectacle ensemble. Donc, on voit comme Fellini, vraiment, il y a un éclectisme en Fellini. Après, il y a des films comme 8 et mezzo, qui sont même hyper célébrales. Il y a un éclectisme énorme en Fellini. Mais il y a toujours ce fond de. Ce qui concrétise les films, ce qui caractérise les films de Fellini, c'est ce fond un peu de malinconie, de mystère, de nostalgie, de tristesse, cet halo-là un peu mystérieux, magique, triste. Ensuite, on a les années 80, qui là encore une fois, on a le besoin de légèreté, on a le besoin de sortir de la lourdeur des années de plomb, des années 70 de la lutte armée, comme je vous ai dit, ce sont les années de la Milano da bere, la Milano à boire, les années des boîtes de nuit, des boîtes de nuit et du trash qu'on rencontre dans la musique, par exemple des soubrettes comme Donatella Rettore o Raffaella Carrà. Soubrette, ça veut pas dire en français, dans le théâtre des boulevards, on l'a vu l'autre fois, la soubrette, c'est la servante qui joue un peu avec le patron, l'allume, la soubrette, come Raffaella Carrà, l'été en Italie, c'è una chanteuse danseuse de variété qui è hyper sexy pour attirer un public masculin, on va dire. Donc il y a cette légèreté, il y a cette envie de vider le cerveau. Quand je parle de musique trash, de télé-trash, je ne me réfère pas au trash dans le sens français de splatter. Je parle de trash dans le sens de poubelle. C'est cette exigence vraie de rien faire d'engager, mais pour la pointe de se vider le cerveau, de légèreté, du divertissement pur et dur. Dans le cinéma trash, on pense au film de Lino Banfi, interprété par Lino Banfi e Luigi Fenech, mais dans les années 80, on assiste aussi à une comicité un peu plus intelligente, un peu plus intellectuelle, comme dans le film de Carlo Verdone ou encore de Benigno de Troisi. De nos jours, qu'est-ce que c'est le cinéma italien? Le cinéma italien, sans doute, est plus commercial qu'avant, par rapport, par exemple, au néoréalisme, par rapport à d'autres courants cinématographiques. Ce filon-là s'est ouvert, comme on a vu dans les années 80, et s'est affirmé surtout par l'arrivée de la télévision privée, essentiellement berlusconienne. Ma quand même, il y a encore de nouvelles tendances qui sont très intéressantes, comme le cinéma cynique, que les auteurs définissent cynique même, c'est le cinéma de Cyprien Maresco qui va bien au-delà du grotesque, o le cinéma d'auteur de Paolo Sorrentino, qui avec la grande bellezza a reporté l'Oscar pour meilleur film en langue étrangère et a mis en lumière un grand acteur rappresentant un peu la nouvelle vague de nouveaux acteurs italiens comme Tony Servillo. Et à propos de la grande bellezza, on va écouter un morceau qui peut-être vous connaissez parce que ça fait partie de notre jingle. On écoute une chanson pour la pointe de la grande soubrette Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu, che è la band sonore della grande bellezza.
corrono dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu.
A preset, conclusione sulla le bref excursus, je pourrais dire traveling. Le traveling è un technique cinematografique. Pourquoi je dis traveling? Parce que la caméra è su un chariot qui prend un sujet dans une ligne, on va dire, verticale par rapport pour exalter le mouvement du sujet. Donc c'est un traveling parce qu'il parcourt dans une direction narratologique verticale le cinéma italien et les voit de certains points de vue comme le traveling cinématographique. Mais on revient à nous et on va dire, on revient à Alice Rockwacker et on va voir après comment elle second, à quel courant elle appartient, à quel, sûrement on a accès nègre déjà qu'elle appartient, elle s'inspire beaucoup au néoréalisme, au courant littéraire à quel s'inspire aussi, elle s'inspire au réalisme magique, elle s'inspire au verisme sans doute aussi dans beaucoup d'œuvres. Mais comment elle voit la femme, Alice Rockwacker, c'est une muse ou c'est un protagoniste elle-même, etc., etc. Des questions qu'on se posera tout au long de cette rétrospective sur Alice Rockwacker qui va durer plusieurs émissions. Et là, on va analyser un film. Et c'est l'autre fois on a analysé Corpo Celeste, que c'est le premier long métrage de fiction d'Alice Rockwacker, comme on a vu. Maintenant, on va voir l'autre film, Corpo Celeste de 2011. Et en 2014, Alice Rockwacker, Rohrwacker sort Les Merveilles, Les Merveilles, The Wonder en anglais. Avec ce film, Rockwacker remporte le prix spécial du jury au Festival de Cannes. Alors, comme dans Corpo Céleste, même ici, le personnage Seyan è ancora un fois un adolescente. Et la protagoniste s'appelle Gelsomina, qui est interprétée par une fille roumaine, d'origine roumaine, qui s'appelle Maria Alexandra Lungu. Elle a 12 ans. Et elle est la fille aimée d'une famille d'apiculteurs. Donc, l'autre fois, on a parlé de la vie d'Alice Rockwacker, on sait bien que son père était un apiculteur. Cette famille-là vit d'autorsi. Donc, elle est vraiment dans l'indépendance par rapport au reste du monde, de la planète. Donc, je reprends une citation qui est, j'ai pris du livre d'Eva Markovitz et de Judith Revaux d'Alon, qui s'appelle Alice Rockwacker, Le vrai du faux, qui est un livre sorti à Montreuil pour les éditions de l'EI, en concomitance de la rétrospective que le Musée Pompidou a dédié à Alice Rockwacker. Donc, dans cette citation, à propos de ce film, dans cette interview, Alice Rockwacker dira « On suit ici la façon dont Gelsomina va s'extraire de cette famille, s'émanciper de la loi établie par son père, de s'intégrer à une communauté plus vaste, la société. Comme Martha, protagoniste de Corpo Celeste, Gelsomina va prendre son indépendance, ma au final, elle choisira de retourner vers le sien. Donc, on assiste dans Les Merveilles à un mouvement opposé envers les sociétés. Dans Corpo Celeste, il y avait Martha qui suit une ligne droite, une ligne en vecteur, on va dire, avec un point de départ et un point d'arrivée totalement différent. Elle part pour être intégrée dans la société, elle veut s'éloigner de la société. Au contraire, Gelsomina, elle suivra une ligne courbe. Au départ, elle est dans son monde, dans sa famille, avec ses valeurs, ses traditions, son père et sa mère aussi, comme on verra. De lot parset adolescent, vide sante greda la société, donc elle s'allogne progressivement, cette courbe se os, pour après se rebasser, et Gelsomina fait le choix de retourner vers les valeurs de sa famille et se désallogne dans la société. Donc c'est une ligne courbe, donc il y a une volonté de s'intégrer dans la société, chose différente par rapport à Marta, mais il y a alla, au final une volonté de retourner à son propre monde bucolique, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce que Gelsomina rêve de participer avec sa famille à un programme de la télévision locale qui va primer les agriculteurs et les éleveurs locaux en faisant connaître les produits du terroir. Donc, pour faire de façon qui s'éteint magique, qui s'éteint, qui appartenait au monde des Étrusques, devient encore une fois l'objet d'un tourisme massif. La télé, ça sert à ça, à ramener des touristes, à ramener, oui, faire connaître les territoires, les terroirs et tout ça, mais avec un bout de vraiment massification. Dans les films, on voit qu'après avoir travaillé Wolfgang Leper, avoir travaillé avec les abeilles, parce qu'on a dit che Leper è un apicultore, le père Wolfgang e ses quatre filles vont se baigner dans une plage pas loin. Et c'est ici qu'un membre d'une troupe lui prie de ne pas crier parce que non loin, il était en train de tourner un film, de faire des reprises, des prises de vue, pardon. Et donc, il était en train de tourner un concours à prime. Donc les filles et le père, ils se rapprochent de ces stages où ils sont en train de tourner, de cet endroit où ils sont en train de tourner les films, et les filles sont charmées par cette... Les personnages sont tous habillés de la façon avec les costumes étrusques, et surtout il y a l'animatrice de cette émission, de ce concours à prime, qui est magnifique, elle est d'une beauté exceptionnelle, on parle de Monica Bellucci, mais elle est aussi d'un candeur exceptionnel, elle a un veste tout blanche, elle a un perruque long, cheveux long tout blanche, elle est la candeur, elle a la pureté, elle rappresente la déesse blanche du monde étrusque. Et dès que Gelsomina voit ce monde-là, la possibilité de faire partie de cette concours prima, elle invite de suite de participer à ce concours. Comme tous les autres filles de son âge, comme tous les autres familles des alentours, ils sont tous attirés par le prix qu'il peut reporter en argent, mais c'est surtout la gloire éphémère et éternelle de la télé. Pardon. Pourquoi gloire éphémère et la télé? Parce que l'effet d'être dans cette petite boîte qui est la télé, et sur augmentant leur gloire sera éphémère parce que l'image sera capturée dans une prise de vue qui durera quelques secondes, mais elle sera éternelle parce qu'elle est capturée pour toujours, ossia de toute la communauté en fait. Il faut dire qui on est. Comme dans Corpo Celeste, on parle dell'adolescence, dell'enfance, qui è una thématique très chère à Alice Rohrbacher. Et on assiste à ses filles qui ont envie de s'enfuir de ce monde strict, le monde de son père. Et un monde, pour carità, où tu vis en liberté, liberté dans le sens, liberté. Indépendance de la société, dans ce sens-là, pas dans l'esclavage du conformisme, dans ce sens-là. Ma le figlie adolescenti hanno bisogno di conformismo. Elle sont, elle, a momà on verrà come il dance, la chanson T'appartengo di Ambra. T'appartengo se un chanson tube des années 90, che ma generazione, le millennials, la generazione X, on tout le monde connaît en Italie. Se un chanson du programme télévisé non è la RAI, non è la RAI, c'était un programme où le figlie, le actrices, le persone che jouaient, le soubrette, on peut les appeler comme ça, c'était qui jouait, qui chantait, qui dansait, c'était que des filles, elles aussi adolescentes, donc... Tout le monde regardait cette émission. D'un côté, les filles rêvaient de devenir des soubrettes comme les autres adolescentes qui faisaient partie de ce monde de non la RAI. Et de l'autre côté, les garçons regardaient en rêvant derrière cette belle fille de leur âge. Donc, il y a ce monde-là. Et je vous fais écouter cette chanson qui a marqué toute notre adolescence. Je parle des Italiens de ma génération. La generazione che è nata nelle anni 80 e che apre te adolescente nelle anni 90. C'è un tube veramente iperconnu e che è un po' stupido, un po' osé aumentare, ma che per tutti noi metterà molto di tendresse e di souvenir. On écoute Ambra Giannini, T'appartengo. Je t'appartiens, s'appelle la chanson.
Io mi ero persa nella nebbia e tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati insieme ti dico t'amo e tu non me lo dici mai. E adesso giura, adesso giura, adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio. Perché un amore col silenziatore ti spara al cuore e pum, sei caduto giù. T'appartengo, io ci tengo e se prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Prometto, prometti.
Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido cento mille volte a sera, ma disperata come una preghiera. Non voglio più svegliarmi sola sola, se non ci sarai. Prometti, per sempre sarà. Prometti, indietro non si tornerà.
Se c'è una crisi la mandiamo via, perché i problemi tuoi sono i problemi miei. Bisogna dirci tutto fra di noi e a tutti gli altri poi non li diremo mai. E adesso giura, adesso giura, adesso giura sopra il mio diario dove c'è la tua foto che è dedicata a me, che ho consumato con i baci e i pianti, che io per colpa tua non piangerò mai più. T'appartengo, io ci tengo e se prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Prometto, prometti.
Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido cento mille volte a sera, ma disperata.
Tengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo. Ma appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni.
Tengo, io ci tengo, se prometto, poi mantengo, ma appartieni. voilà, il faut dire che Ambra Giolini a è divenuta una grande attrice che ha fatto film da un certain point avec Obstetek, un realizzatore turco-italiano che ha fatto film très beau dalle anni 2000 come Le Fate Ignoranti, Saturno Contro avec Ambra Giolini pour la point, e tanti altri film. Donc, on revient au film, on revient à ces adolescents qui rêvent le monde de cette boîte enchantée qui est la télé, le monde qui tous nous, de la génération X, des millennials, on rêvait tous ça. On rêvait derrière cette émission, on rêvait le monde de la télé, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, même pas Internet. C'est une chose qui peut sembler absurde pour les gens de 20, 25 ou 30 ans, mais c'était comme ça, voilà. Et je me sens pas bien par contre. Et alors, on revient au film, et on va dire qui est tout ce monde-là pour Wolfgang, le père de Gelsomina. Sont des, comme il le répète plusieurs fois, stronzate, c'est-à-dire conneries, des gros conneries. Il s'ostine à dire comme ça. Et ses filles, et surtout Gelsomina, la plus grande, qui rêve derrière ces conneries. Il faut dire qu'il est vraiment. Son père, il est un extrémiste dans son choix de vie. Il est dans son monde fait d'abeilles et de miel et il ne veut rien savoir de tout ce qui l'entoure, même pas de la volonté de sa fille. Il veut être libre de tout conditionnement de la société et il veut que ses filles soient aussi libres comme lui. La mère del Gelsomina, che è interpretata par Alba Rohrbacher, che ha visto la Serenè, una grande attrice italiana, Serenè di Alice, Même si la mère de Gelsomina adhère au choix de son mari, elle est trop fatiguée d'être soumise, pas à cet homme, mais à ce caractère si fort, d'être un caractère totalitaire qui choisit même sans se consulter avec sa femme. C'est le cas, par exemple, où le père de Gelsomina, qui était trop fatigué pour le travail, il chargeait lui-même et sa fille aussi, très responsable, il s'est chargé d'un travail énorme avec les abeilles. Donc, un moment, il décide de prendre sous tutelle un jeune garçon d'origine allemande qui a 14 ans, qui vient de sortir du réformatoire de la prison pour les mineurs. Et la mère, au début, est contre ça. Ce garçon-là, il a un mutisme, il est enveloppé dans le mutisme. C'est évident qu'il a subi des traumatismes. Par exemple, quand Coco, qui est un hôte de la famille, cherche de le faire un câlin devant l'assistante sociale qui s'occupe de ce garçon s'enfuit, ce garçon cherche de s'échapper de ces canons-là, il est évident qu'il a subi un traumatisme, il parle même pas, mais il comprend très bien l'allemand, il parle, il comprend ce que Wolfgang le père lui dit, et il travaille comme Wolfgang lui dit. Ce garçon-là, il parle pas, mais il a un don, il siffle, mais il siffle dans une façon merveilleuse, il imite les chants des oiseaux dans une façon merveilleuse. Ce don-là, c'est dans toute sa simplicité vraiment beau. On le sent dans les films et on est étonné par ce sifflement-là. Comme ce garçon-là, il a ses dons, même Gelsomina a un don aussi très simple, simple comme le don de Martin. Et Gelsomina a le don de mettre les abeilles dans la bouche et les faire sortir et les faire déambuler petit à petit sur son visage, l'une après l'autre. Donc, on va dire c'est une connerie, mais c'est pas une connerie, c'est une chose avec laquelle les jeunes, les enfants, les adolescents, ils sont contents, ils jouent entre eux, ils rient entre eux de cette simplicité. On assiste à la fin du film Wolfgang, le père, il se laisse convaincre et finalement il participera avec ses filles à cette émission-là. L'émission se tient dans une grotte d'une île du lac de Bolsena. Dans cette île, il y a des ruines de tombeaux étrusques. Donc la grotte doit contenir la troupe, les participants, le public, et l'endroit devient forcément étroit. Comme on a vu qu'il est étroit, la petite boîte qui est la télé. Donc les prises de vue sont en champ contre champ. Champ contre champ, ça veut dire que la caméra à un moment encadre un sujet d'un angle, après il encadre dans l'angle opposé à 180 degrés, dans l'angle opposé. Donc les prises de vue sont toujours champ contre champ. Et les personnages sont souvent repris de profil. En fait, Rockwagner dirà che si ispira alla peinture rinascimentale, la gran peinture di Piero della Francesca, pour conférer avec ses profils typiques de Piero della Francesca, on pense au duc, la duchesse d'Urbino de Piero della Francesca, où il confère un grande autorité. Donc, pour conférer à ces personnages qui sont les participants de cette émission, de ces concours à prime de la télé, qui sont habillés comme les étrusques pour conférer la grande autorité, sacralité qui avait les personnages de Piero della Francesca, comme Piero della Francesca, qui sont repris des profils. Sauf, on voit dans la scène qui Wolfgang si rigide dans ses positions, mais au moment qu'il vient interviewer, il sait pas comment s'exprimer, il bégaye des mots presque incompréhensibles qui sont plus ou moins comme ça. L'agriculture est sacrée, notre travail est sacré. En ce moment, Gelsomina fera ce qu'elle appellera. Alors, elle demandera à l'animatrice, on peut faire un petit spectacle. Petit spectacle, on se souvient que c'est aussi le premier travail d'Alice Rockwagner, le premier documentaire où elle a collaboré avec Pierpaolo Gironde. Et dans ce petit spectacle, elle fait sortir les abeilles de sa bouche avec le sifflement de Martin. À ce moment-là, Rohrwacher, fait revenir Gelsomina vers son monde, vers sa famille, vers les valeurs de son père. C'est à ce moment-là que la ligne qui était en vecteur chez Marthe d'éloignement de la société devient une courbe, une spirale qui revient au point d'origine. C'est à ce moment-là qu'elle s'éloigne du conformisme, Gelsomina s'éloigne du conformisme de la télé pour revenir à valeur de sa famille. Et Gelsomina et Martin, à différence des autres participants, sont repris frontalement pour les distinguer, pour la pointe. Et il y a cette simplicité enfantine et improviste de ce spectacle, et ce spectacle sera Bouche Bée, l'animatrice Monica Bellucci, en faisant sortir les abeilles de la bouche, l'animatrice presque dégoûtée de ce spectacle qu'il propose les enfants. Elle est sûrement étonnée. C'est évident que tout cela va au-delà de ça qu'on appelle en italien la scaletta, le plan de l'animatrice, de cette déesse blanche. Tout cela est en contraste avec le reste de la mission, avec la boîte, on a dit, éphémère et artificielle. Et ceci costitue la clé de voûte du film, en fait. Là, dans Corpo Celeste, la clé de voûte, c'était la phrase, c'était dans le message « Die, pourquoi tu m'as abandonné ?» Dans Meraviglia, la clé de voûte est par cette image, par les images, on a la clé de voûte. Donc, on a le monde de la nature, de la semplicité de l'enfance contre le conformisme et la culture de l'image de la télé. Rohrwacher, come il meme al film, è il vient du mondo della letteratura, è diplomé en lettres. En Corpo Celeste, on assiste a una letteratura, biblique, dans cette phrase, die, pourquoi tu m'as abandonné. Par contre, dans danno le meraviglie, le immagini sono fondamentali. Una parlare già della pintura rinascimentale di Piero della Francesca, che è l'Elsa Spir, mem l'île du Lac de Bolsena, Uiliale Trombò Etrusca, e là un rassemblanza enorme avec l'île de Mort di Arnold Böcklin, che è un pentore tre cognosi. Donc, la significazione ultima delle meraviglie si concretizza da cette image de petit spettacle. Le messaggi è veiculé per l'image e par le son du sifflement, pardon, de Martin. Dernière curiosité de ce film, qui Alice Rockweiler dirà il meme dall'interview toujours conduite par Eva Markovitz e Judith Revaud-Allon dans le livre Le Vrai du Faux. Dernière curiosité, qui dans ce film on parle différentes langues. Le père et la mère parlent en français, parce que comme dirà Alice Rockweiler, le père était en allemand, la mère était en italien, ses parents se sont connus en français, elle affirmera ça dans l'interview. Et donc, dans le film même, qui est un film a un fortissime component autobiographique, les parents de Gelsomina parlent en français entre. Après, il y a bien sûr l'allemand de Coco, l'hôte de la famille, du père surtout, et de Martin qui ne parle pas mais qui comprend, et après il y a l'italien che la langue parle dans le contexte du film, par les enfants et par tous. E Alice Rockweiler, elle fait une constatation très belle sur la langue, che je vais vous dire directement. Les langues ne servent pas de déterminants géographiques, mais elles qualifient les relations. C'est bien d'imaginer que les langues ne sont pas seulement les signes de l'appartenance à un territoire, d'une provenance, mais peuvent elles-mêmes être des territoires déliés. C'est une spécificité de tous mes films. Comme dans La Chimère, il y a l'anglais, le portugais et l'italien, les différentes langues racontent différentes intimités des personnages. Ce sont leurs jardins secrets, dont ils sont très jaloux. Avec cette citation, je vous laisse et je vous souhaite un bon écoute. Et je vous remercie aussi parce que ça fait 3 ans que l'émission qui vous me supportez, que l'émission est diffusée. Et donc je vous remercie aussi pour m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je remercie tous les amis proche et loin, et toutes les personnes que je ne connais pas, qui m'ont écouté et qui parfois m'arrêtent dans la rue en disant Radio Galère, l'émission Nino Domani à Palermo. Je vous remercie. Je vous dis à dès lundi, vous êtes à l'écoute de Simone, à dès lundi avec la nouvelle émission de Nino Domani à Palermo. À bientôt.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescure, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo'. Atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
son più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello
di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ma chi per bingrindina che ce l'ho?
Marcello,
son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma.
E je vous laisse avec notre jingle che reprend la bande sonore de la Grande Beauté. À l'écoute.
Torino, domani a Palermo, un'emissione del Culture Italienne, tu la premiere, troisième lundi du mois à 18h su Radio Galère 88.4 FM e ne ratepale podcast su www.radiogalère.org. Stay tuned!